Rappelez son problème, son drame, c'est qu'il est un oiseau. Oh. C'est vrai que les images, ça aide quand même. Alors, vous me direz peut-être quand même qu'avec le temps de l'entraînement, l'évolution de son espèce, qui sait? Apparemment, il essaye, comme il est là, encore de voler. Alors, au risque d'attrister profondément tous les amis des pingouins, il ne volera jamais. Imaginez même qu'il ait le désir de voler. Ce désir n'est pas connecté aux ressources qui lui seraient nécessaires pour voler, à savoir le pouvoir, la capacité naturelle de voler. Dans le domaine de la vie spirituelle, c'est la même chose. Alors vous pourrez conserver l'image mentale du pingouin, ça vous aidera. Il ne suffit pas simplement de vouloir faire la volonté de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que nos meilleures intentions et nos plus puissantes résolutions, et je crois que c'est l'expérience qu'on en fait un peu au quotidien, sont incapables de nous faire triompher des pulsions de notre ancienne nature qui, elles, nous attirent en permanence vers le bas. Pour le dire autrement, sans aide, nous ne pouvons pas voler. Donc si dans la semaine, vous voyez passer au-dessus des maisons, ne vous inquiétez pas. Au niveau entraînement, je suis un peu plus avancé que vous. Donc il faut qu'on nous aide pour que nous puissions enfin faire la volonté de Dieu. En d'autres termes, j'ai mis ça en forme d'équation. Nouvelle pureté, à savoir la purification opérée par le sang du Christ, plus, c'est tout ce qu'on a, hein, ce qui a été accompli par Jésus, hein, plus notre nouvelle identité en Christ, plus, toujours des plus, hein, c'est super, hein, notre nouvelle disposition, rappelez-vous, hein, ce cœur nouveau que Dieu nous a attelé, eh ben, tout ça, même si c'était plus, c'est quand même équivalent à frustration et défaite. Alors, je trouvais qu'il était comique, là, le monsieur, là, en train de pleurer. Mais objectivement, si on s'arrête là, mais c'est vrai, hein, ça, vraiment. Si on s'arrête là, il y a de quoi pleurer, hein, non? Tout ça est... La bonne nouvelle, c'est qu'il manque quelque chose à notre équation. Il manque un élément. Ce qu'il faut encore ajouter à cette équation, c'est la nouvelle puissance qui rend justement la vie relationnelle avec Dieu, la victoire spirituelle, une vie spirituelle digne de ce nom, possible. Parce que, dans l'absolu, vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire que c'est bien de dire qu'on n'y arrive pas, mais ce serait peut-être mieux de dire ce qu'il faut faire pour vivre une vie digne de Dieu. Une vie où nous connaîtrions autre chose que la culpabilité d'avoir échoué à obéir aux standards demandés par Dieu. Je vais y venir, hein, je vais y arriver. On raconte que le philosophe écossais que vous connaissez certainement, Thomas Carlyle, était un jour assis avec ses parents devant le feu ouvert familial. Et il discutait de l'Église et des pasteurs qui y prêchaient avec ses parents. Il n'était pas chrétien, mais forcément, ça lui arrivait d'aller au culte avec ses parents quand il leur rendait visite. Donc, ils sont là devant le feu ouvert et à un moment, il y a un grand silence. À l'époque, au 19e, les gens faisaient silence devant les feux ouverts. C'est pour ça qu'on a supprimé les feux ouverts, parce que plus personne ne l'a... À un moment, donc, il déclare de manière péremptoire, « Si je devais prêcher, ce serait très court, mon rêve, et le vôtre, sans doute. Je monterai en chair, je regarderai l'assemblée, je dirai, « Braves gens, vous savez ce qu'il faut faire, alors maintenant, retournez chez vous et faites-le. » Ça, j'ai essayé il y a très longtemps, ça marche pas. Sa maman, qui était chrétienne, une fervente chrétienne, après un moment de silence encore, lui répondit, « Mon cher Thomas, j'espère surtout que tu leur dirais comment faire. » Est-ce que ce n'est pas là la grande question à laquelle nous sommes tous confrontés? Comment faire? En fait, il ne s'agit pas de savoir quoi faire, mais bien effectivement de comment faire. Pour le dire autrement, où puiser la force d'accomplir ce que Dieu nous a fait désirer par notre nouvelle disposition qu'il a placée en nous. Rappelez-vous, hein, nous avons le désir profond de faire ce qu'il nous demande, de l'aimer, de le servir, de lui obéir. Ce désir est là, c'est lui qui nous l'a placé. Il est là, quoi que vous pensiez, quoi que vous ressentiez. Mais comment faire pour que ce désir passe au niveau supérieur? Peu importe l'ardeur avec laquelle nous désirons obéir à la parole de Dieu, celle-ci par elle-même ne peut pas nous conférer une puissance de vie. Rappelez-vous ce que Paul dit, pas moi, hein. Paul, 2 Corinthiens 3:6. C'est Corinthe, hein, le vieil père. Il nous a aussi rendu capables, donc le Saint-Esprit, il nous a aussi rendu capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre ou vivifie, dans d'autres traductions. Ce que dit Paul ici, c'est que la parole de Dieu, ça peut paraître paradoxal, hein, elle est bonne la parole de Dieu, hein, c'est la parole de Dieu. Mais Paul nous dit que la parole de Dieu engendre la mort dans notre ancienne nature, dans cette nature que nous avons encore et qui ne connaît pas Dieu, qui ne veut pas connaître Dieu. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, que la parole de Dieu éveille en nous le désir de transgresser cette parole. Certains d'entre nous ont eu des enfants ou ont des enfants. La plupart sont grands aujourd'hui, même partie de la maison parfois, mais quand ils étaient plus jeunes, ça m'a marqué ça. Vous leur dites, surtout tu fais pas ça. 5 minutes après, ils font quoi? Ce que vous avez interdit. Ils ne jouent pas sur la rue au ballon quand il y a des voitures, parce que c'est dangereux. C'est une parole de vie, comme Dieu peut en donner. Eh bien, 5 minutes après, vous les retrouvez en train de jouer où? Sur la rue, près des voitures. La parole est bonne, elle donne la vie, mais cette ancienne nature procure en nous ce désir d'enfreindre cette loi de Dieu. Donc Paul nous dit, chaque fois que je lis l'Écriture et que mon ancienne nature est confrontée à ça, elle me tire vers le bas pour que je ne fasse pas ce que Dieu dit. Pire, elle me pousse à enfreindre cette parole. C'est Paul qui le dit, hein. Donc, écoute, c'est aussi une équation, c'est horrible. Elle stimule le péché, elle suscite la culpabilité quand on s'est cassé la figure, et puis elle prononce le jugement. T'as encore une fois raté ton coup. C'est loupé. Tu es nul. Enfin, vous connaissez le mot, vous connaissez, hein. Enfin, vous, parce que moi, c'est seulement. Et ce principe peut se vérifier en permanence. Alors, à titre personnel, hein, j'ai bien souvent fait l'expérience qu'à chaque fois que j'envisage l'obéissance à un seul commandement de Dieu, pas deux, hein, faut y aller mollo, hein. Un. Il y en a quelques-uns, pourtant. Un. Chaque fois que je l'envisage, c'est souvent comme un devoir. Ça, c'est ce que produit mon ancienne nature. Et dès que j'envisage d'obéir à Dieu par devoir, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre qui est en moi que le devoir, eh bien, une torpeur et une résistance quasi systématique à ce commandement qui surgit en moi et je ne peux rien y faire, c'est là. Si ça ressemble un peu à votre expérience, je pense que c'est un peu normal. Parce qu'à ce niveau-là, on est tous pareils. Hein. La seule puissance capable d'ôter ces obstacles et de donner à l'âme le repos que Jésus a promis, c'est la puissance de la résurrection. Alors vous allez me dire, oh, mais c'est quoi ça? Saint-Esprit. Cette puissance réside uniquement en une personne. Et c'est ça qu'on ne parvient pas à intégrer. On va y revenir, hein. Cette puissance réside en une personne. Elle n'est pas détachée, ce n'est pas un principe, ce n'est pas une règle, c'est une personne vivante. Là, il vaut mieux. Nous ne nous en rendons pas compte, mais chaque fois que les devoirs de la vie chrétienne deviennent notre préoccupation centrale, et c'est, sur le principe, ça paraît génial, hein. C'est quand même tourné vers Dieu. Ben, chaque fois que c'est comme ça, et c'est souvent comme ça, au mieux, nous recommençons à vivre sous l'autorité d'une loi, de la lettre. Il faut, tu dois. Plutôt que sous l'autorité d'une personne, à savoir l'Esprit-Saint. Donc, quand nous essayons de pratiquer les commandements bons et légitimes de Dieu, sans le secours des ressources surnaturelles mises à notre disposition, nous sommes écrasés par un poids insupportable. Soit on a l'impression de courir sans basket ou sur les genoux, soit on tombe, on échoue et on culpabilise. Je pense que c'est un bon résumé de la vie chrétienne de bon nombre de chrétiens aujourd'hui. J'en ai jamais fait, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Tout simplement parce que il paraît que quand vous apprenez à faire du ski nautique, vous êtes totalement ridicule pendant la première heure. Et ça, moi, c'est pas possible. Voilà, comme ça, vous savez tout. Notre situation spirituelle ressemble souvent à ça. C'est comme si nous étions dans un lac avec des skis nautiques aux pieds, mais sans hors-bord pour nous tirer. D'accord? Dans mon illustration, les skis permettent d'aller dans la bonne direction et offrent de la stabilité. Les skis, c'est les commandements de Dieu, parce qu'il donne la direction. ils sont positifs. De toute façon, sans ski, ça vous fera encore moins de ski nautique. Mais si vous n'êtes pas relié à une puissance surnaturelle pour vous amener en surface et vous tirer, vous ne sortirez jamais la tête de l'eau. Et rien que les skis nautiques, sans cette puissance d'attraction, ben, vous n'arriverez jamais à faire surface et à skier effectivement. Ces skis ne vous empêcheront même pas de couler, finalement. Donc seule la puissance de résurrection du Christ peut nous empêcher de sombrer, effectivement, dans une vie qui, la plupart du temps, spirituellement, ressemble plus à la mort qu'à la vie. Rappelez-vous ce que Sartre disait à la sortie d'une église, hein. Si seulement ils avaient des gueules de ressuscité. Alors vous dites, ouais, mais c'est Sartre, il était athée, bon, s'en fout, il avait un avis. Pourquoi ? Il ne voyait pas de vie, quoi. Hein ? Alors, osons-nous poser la bonne question. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller de l'avant de façon surnaturelle ? Si je dis de façon surnaturelle, c'est parce qu'on a un petit peu Dieu en nous. Donc, c'est quand même un peu surnaturel. Quand, parfois, les gens vous prennent pour des fous. Disent, moi, j'ai Dieu en moi. Vous dites ça, sortez d'ici, arrêtez un quelque. Vous savez, j'ai Dieu en moi. Ils vont vous prendre pour un cinglé. Et ils auront raison. Mais c'est surnaturel quand même d'affirmer qu'on a Dieu en soi. Donc, pour répondre à cette question, qu'est-ce qui nous empêche d'aller de l'avant, souvent, il faut se rappeler que pour qu'une action soit considérée comme juste aux yeux de Dieu, elle doit répondre à 3 critères. Ce n'est pas beaucoup, 3. Elle doit être faite selon les règles de Dieu, comme Dieu dit qu'elle doit être faite. Elle doit être faite pour la gloire de Dieu, pas pour la nôtre. Et par l'Esprit de Dieu, par le moyen de l'Esprit de Dieu. Il y a plein de gens qui font plein de bons trucs pour leur gloire à eux. Hein. Et l'ancienne nature va produire ce désir de nous glorifier. C'est voilà, comme ça. Donc, je répète, elle doit être faite selon les règles de Dieu, pour la gloire de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons absolument pas satisfaire à ces conditions dans notre état naturel, à partir de notre ancienne nature. Ce n'est pas possible. Parce qu'encore, cette ancienne nature va nous pousser à faire les choses pour nous, en rapport avec nous et surtout par nos propres forces. De là l'interpellation de Paul à l'égard de ses frères résidant en Turquie, dans sa lettre aux Galates. Enfin, manquez-vous ce point de bon sens, c'est gentiment dit, parce que dans le grec, ça claque beaucoup plus. Hein. Il a dit, mais est-ce que vous êtes idiot à ce point-là, quoi ? Vraiment, Paul, il est estomaqué. Manquez-vous à ce point de bon, après avoir commencé à par l'Esprit de Dieu, on vous a enseigné comment vivre votre vie relationnelle avec Dieu et votre vie chrétienne en vous soumettant à l'Esprit de Dieu, par la puissance de l'Esprit, et maintenant, vous avez quitté ce régime-là pour tenter d'obéir à Dieu de nouveau par vos propres forces. Donc vous replacez sous la lettre. Il dit, mais vous êtes complètement taré. Il dit, mais ça ne marche pas. Vous allez vous épuiser comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce que Paul dit, c'est très simple. Mais on doit le réentendre, je pense. Nous ne pouvons pas grandir dans notre relation à Dieu en nous appuyant sur ce qui est opposé à Dieu, notre nature propre. Ça s'appelle la religion. Si on essaye de vivre notre relation à Dieu, de lui obéir par nos propres forces, et consciemment ou inconsciemment, c'est souvent ce qu'on essaye de faire, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera pas. Parce que dans la grande majorité des cas, c'est ce qui se passe. Nous nous épuisons parce que sans en être conscients, nous tentons de suivre Dieu en nous appuyant sur nous-mêmes et pas sur lui. Alors, comment est-ce possible, vous me direz, alors que justement, nous savons, par la foi, que nous avons l'Esprit de Dieu en nous ? Eh bien, je crois que c'est parce que notre ancienne nature tient fortement à ses privilèges. Elle tient à faire sa part, notre ancienne nature. Elle veut qu'une partie du mérite que nous faisons parfois lui soit attribuée. Parce que là, ouais, enfin, si c'est Dieu qui fait tout à travers moi, où est-ce que moi je suis ? Ben, vous êtes supposé être en Dieu et pas à côté de Dieu. On essaye de vivre nos vies chrétiennes en se basant sur nos propres capacités. Notre ancienne nature s'efforce par tous les moyens d'exercer un contrôle au moins partiel sur votre vie spirituelle et s'insurge avec véhémence contre cette idée effrayante pour elle, pour notre ancienne nature, que nous puissions nous appuyer seulement sur Dieu. Pour nous, c'est inadmissible, ça. Pour ce qui n'est pas Dieu en nous, c'est inadmissible, ça. Pourquoi croyez-vous que la Bible condamne si durement l'orgueil? Ce qui signifie que notre problème ne réside pas dans la confiance en Dieu. Moi, je pense que la plupart d'entre vous, ceux qui le connaissent, font confiance en Dieu. Le seul problème, c'est qu'aucun d'entre nous ne fait confiance qu'à Dieu, uniquement. Vous faites encore trop souvent confiance, vous avez confiance en vous-même. C'est de trop. Et ça vous attire par le bas. Et avant de dire que nous plaçons notre confiance en Dieu seul, arrêtons-nous quelques instants pour entendre ce que Jacques, le demi-frère de notre Seigneur, a à nous dire. C'est un des exemples, j'aurais pu en prendre d'autres. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans une telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires, nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Qu'est-ce qu'il dit Jacques? Tu dis que tu as la foi? Tu dis que tu marches avec Dieu par l'Esprit Saint? Oui, ben, comment ça se fait que tu prends aucune décision en demandant l'avis de Dieu? Faites des projets, hein, c'est impossible. On est programmé pour faire des projets. Est-ce qu'on l'inclut dedans? Est-ce qu'on est capable de l'entendre dire, non, ça tu ne vas pas faire, ce n'est pas un bon plan. Moi, je pense, expérience personnelle et pastorale, la plupart d'entre nous, que ce soit les petites, les moyennes, les grandes décisions, on ne consulte pas Dieu. Oui, mais si on ne lui demande jamais son avis, je reviens à ma citation du début, est-ce qu'il est vraiment réel? Moi, de temps en temps, je demande l'avis d'Isabelle. Si. Pourquoi? Parce qu'elle est réelle pour moi. Maintenant, je ne demande jamais son avis. Et je dis, oui, mais de temps en temps, mais tu sais, chouchou, ton avis est important pour moi. Pourquoi tu ne me le demandes jamais alors? C'est comme s'il n'existe pas. Idem. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Oui, mais nous faisons... Non. La plupart du temps, on ne demande rien à Dieu. On demande l'avis de Dieu sur rien, la plupart du temps. Et ce qu'il nous dit pour résoudre des situations, on n'écoute pas. On n'écoute pas. Et on touille dedans. Et on ne sort pas. Et puis on lui en veut aussi, accessoirement. Ça, c'est très classique aussi. Je suis le même. Donc nous prenons un nombre incalculable de décisions sur une journée, de la plus anodine à la plus grave. Et la plupart du temps, on ne lui demande pas son avis. Combien de chrétiens sur cette planète intègrent vraiment Dieu dans leur vie? Sa volonté dans leur vie? Je m'avance peut-être, je n'ai pas de statistiques sur le sujet, ce serait un peu trop compliqué d'en avoir, mais je pense, et on va peut-être encore dire que je suis pessimiste, mais je pense que ce chiffre doit flirter avec le zéro. Pas tout à fait zéro, parce qu'il y a bien l'un ou l'autre chrétien sur cette planète qui essaye vraiment de vivre en dépendance totale de l'esprit. Et souvent, quand on voit les décisions que prennent ces gens-là, quand on a la chance d'en croiser un pour avoir un exemple de vie chrétienne digne de ce nom, on les prend pour des fous. Tu as tout abandonné pour suivre Dieu, mais tu es fou, toi. Quoi, tu gagnes 10 000 euros par mois, et qu'est-ce que tu crois tu vas partir missionnaire? Où ça? En Amazonie? Mais tu es fou, toi, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Chou? Tu veux faire quoi? Pasteur? On est chrétien, hein? Mais il n'y a pas de débouché là-dedans. Mais on est chrétien, on va au culte le dimanche. Hein? C'est du réel, hein? C'est du vécu, ça. Alors, entendons-nous bien, hein? Nous sommes contents de savoir que le secours de Dieu est disponible quand nous avons épuisé toutes les autres solutions. Ah oui. Quand tu es à moitié mort près du mur, ben, c'est clair que là, bon, il reste que lui, quoi. Oui, mais notre nature propre ne peut pas supporter l'idée que Dieu soit notre seule solution. Elle va toujours se battre contre. On ne doit pas le laisser faire, mes amis. Alors, je vais le redire encore une fois, mais chacun d'entre nous est une guerre civile ambulante, vraiment. Paul encore, lui, le dit très bien. Souvenez-vous, Romains 7. On a déjà pris ce texte il y a quelque temps. Hein. Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. En lui, c'est boum, 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 ça pète dans tous les sens. Dans certains milieux d'église, on va vous dire, le combat spirituel, c'est quand tu prends Satan par ses cornes et tu lui mets un coup de boule. C'est pas ça le combat spirituel. Petite parenthèse, ne tentez jamais de faire ça dans le monde spirituel. Hein. Laissez les démons aux professionnels, il vaut vraiment mieux. Le combat spirituel, c'est vous et le Saint-Esprit contre votre ancienne nature. Premièrement, il faut déjà prendre conscience qu'il y a un combat et que c'est ça le sens de votre vie depuis que le Christ a pénétré votre existence. Toute votre énergie doit se concentrer là-dessus, parce que tout le reste va en découler, même le temporel. Gagner ou perdre au quotidien ce combat. Et quand vous êtes engagé là-dedans, demandez à n'importe quel soldat professionnel qui a fait la guerre, qui a participé à un conflit, toutes les journées de 24 heures, ils ont l'impression qu'elles en font minimum 72, tellement que c'est dense, tellement que c'est fatigant. Mais c'est fatigant, hein. Mais c'est le prix. Prendre conscience que c'est une guerre. Paul, lui, dit, et c'est courageux, hein, c'est quand même à l'époque, et encore maintenant, il est quand même considéré comme une grosse pointure de la vie spirituelle. Eh bien, Paul dit, moi, je suis en pleine guerre civile. En permanence, je suis en guerre civile. Il était tiraillé entre deux forces contraires. Entre d'une part la force de son ancienne nature et celle de sa nouvelle nature, caractérisée par l'Esprit-Saint. Et à la lecture de ce passage, en y réfléchissant, je pense qu'on peut utiliser des mots tels que, quand on lit tout Romains 7, hein, frustré, écrasé, désespéré, agité, misérable, nul, en dessous de tout, culpabilisé. C'est l'expérience de Paul quand il perd la bataille. Hein. La guerre, on l'a gagnée déjà. Vraiment, elle est déjà, Jésus l'a gagnée. En attendant, ici, moi, je dis souvent, c'est parce qu'il a gagné la guerre qu'on ne peut pas de temps en temps gagner une bataille. Parce que ça fait du bien à l'âme. Alors, est-ce que ça, ce qu'il dépeint, est-ce que cette guerre civile, est-ce que c'est ça la vie chrétienne normale? Oui et non. Si je suis méchant, je m'arrête là. Oui et non. Et le non, c'est moi. Hein, quand je l'ai écrit sur ma petite feuille, je dis, oh non, oh. Je dirais oui dans la mesure où c'est notre expérience à tous. Nous ne connaîtrons jamais un moment où nous ne serons pas engagés dans cette guerre civile intérieure. Ne vous faites pas d'illusions. À certains moments, vous pouvez l'impression, ça peut arriver qu'on sente plus cette présence, cette guerre. Alors ça a deux sens. Il y a deux possibilités si vous ne ressentez pas ce combat. Un, c'est que vous êtes en train de le perdre, vous êtes exsangue sur le champ de bataille et vous ne vous en rendez même pas compte. C'est votre ancienne nature qui vous a bouffé. Et vous êtes totalement incapable de vous rendre compte qu'il y a encore possibilité d'avoir une bataille. Ben, il n'y a plus de bataille parce que vous êtes rendu. C'est baisser les armes. Ça, c'est la première possibilité. Ou alors, pour un certain temps, dans un certain domaine de votre vie, où vous avez des problèmes à obéir à Dieu, vous savez, des addictions, des comportements, vous connaissez ce comportement, et vous retombez, vous demandez pardon, et vous retombez, vous demandez pardon, et vous tombez, vous demandez pardon. C'était comme ça qu'il faisait le type au GLS. Hein. Moi, je fais comme ça. C'est mon côté non-conformiste. Puis pourquoi si on avait mis ce micro si près de lui, enfin, soit. Soit, deuxième possibilité, vous êtes dans un domaine de votre vie comme ça, en train de tomber tout le temps, et puis à un moment, vous ne tombez plus. Ça se passe plus. Vous savez pas pourquoi, hein, mais pendant X temps, oh, vous le faites plus. Oh, et on se dit, oh, voilà, ça y est. Je sais pas pourquoi, mais j'ai gagné. Je fais plus. Merci Seigneur. Ça dure une semaine. Allez, pour les plus costauds, une semaine et demie. Et on se reprend le tapis et on se recasse la gueule au même endroit pour le même motif. Et vous savez, là, il faut vraiment positiver ce moment-là, parce que c'est le Saint-Esprit qui dit, tu as oublié qu'il y avait la guerre. Dans toutes les guerres, il y a des cessez-le-feu, mais la guerre, il y a toujours, tu as oublié qu'il y avait une guerre. Tu ne peux pas oublier ce conflit. Ta vie spirituelle en dépend, et la vie des autres aussi. On ne tombe jamais tout seul, mes amis. Quand je cours à côté de mes ponts, croyez-moi, l'entourage, ils le sentent très bien. Mais c'est un privilège, quoi. Si, ben si. Bon. La guerre fait toujours rage. Alors c'est terrible, mais moi je suis pas là pour vous vendre des pastèques. Hein, ou la vie chrétienne, c'est merveilleux. Parce qu'il y a des gens qui vendent ça. Mais tant mieux pour eux, hein, ou tant pis. Mais c'est pas ce qu'enseigne l'Écriture. Hein, vraiment pas. Alors il en est ainsi parce que, nous dit Paul, je reprends Paul, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, il ne se rend pas compte, hein? Ben, c'est un mec heureux. C'est un mec heureux. Il n'y a pas de combat. C'est sa nature qui conduit. Il n'y a pas de combat. Dès que l'Esprit Saint arrive, patatras. Il y a une armée en face. Tu feras plus que tu veux. Tu vas te casser la gueule, je vais te chanter dedans, tu vas tomber, je vais te relever, tu vas retomber. Mais je vais y passer par l'éternité parce qu'on sera parfait. Mais toute ta vie ici, on va jouer à ça. Alors, autant que tu te soumettes à ton général en chef, l'Esprit Saint, parce que je ne te laisserai pas. Maintenant, je suis là. Alors, tu vas pouvoir me faire taire. Nous sommes. Ça, c'est. On a un général. Bon, l'Esprit Saint, si on peut employer cette analogie, c'est notre général. Nous sommes quand même des drôles de soldats. On ose dire à son général, va te faire. N'essayez pas de faire ça même à l'armée belge. Hein. Envoyez un général promener, vous allez voir ce que ça coûte. Hein. La lutte contre notre ancienne nature, notre nature propre, ne prendra fin qu'avec notre entrée au ciel. Vous comprenez ? Notre mort aussi, mais enfin, je n'ai pas envie de parler de la mort, c'est pas très gai. Quand on sera au ciel, ça va faire et on sera parfait. Voilà, plus de nature propre. En Dieu. Youpi, parfaitement. Le pied, quoi. On n'y est pas. Tant qu'on est ici, ça va se fighter. Donc, est-ce que c'est la vie chrétienne normale? Oui. Est-ce que c'est que ça? Non. J'ai envie de dire, plus qu'envie même, catégoriquement, non. Parce que, mes amis, si c'est que ça, hein, on va peut-être pas pousser les gens à y rentrer dans ce bazar. Parce que les pauvres. Bon, il y a le salut, on est bien d'accord, hein, mais bon. Non, parce que Dieu n'a jamais voulu que ses enfants se résignent à la défaite spirituelle et adoptent ça comme style de vie. C'est-à-dire souvent, mort par terre. On est dans un combat horrible, on s'est flingué, on chute, on tombe. Dans le vrai conflit, on est mort, vraiment mort. Et on se dit, bon, je suis mort, mais en attendant, je ne vais plus me battre, quoi. C'est plutôt reposant, la mort. Mais non, parce qu'on est habité par un esprit de résurrection. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est comme quand on joue au cow-boy. Moi, je joue au cow-boy et aux Indiens. Le nombre d'Indiens que j'ai buté, moi, c'est une horreur. Quelqu'un, un de mes amis, mes petits copains, osait me tirer dessus parce que c'est déjà à l'époque, ils n'osaient pas. Mais ils me tuaient, alors je faisais le mort d'une manière extraordinaire. Mais je tombe. Et puis on faisait et on était de nouveau vivant. Ben, c'est la même chose avec l'esprit. Quand vous tombez, vous êtes de nouveau mort. Hein, vous êtes de nouveau mort. Et ben, l'esprit, il fait. Allez, revivant, on recommence. Oh, je ne peux pas rester mort. Eh non, je suis un esprit de vie, tu ne resteras pas mort. Voilà, on est reparti pour un tour. Vous êtes content de savoir que la vie spirituelle se résume en fait à jouer au cow-boy aux Indiens. Franchement, non. Dieu n'a jamais voulu que ses enfants se résignent à la défaite spirituelle et adoptent cette défaite systématique comme style de vie. Ça nous rend triste, hein. Si on est vraiment habité par l'Esprit de Dieu, je sais qu'on est triste par rapport à ça. On est profondément attristé. Mais il y en a un qui l'est encore plus. Hein. Papa. Un vrai père, quand son fils se prend une gamelle, le fiston, il trinque. Hein. Il n'est pas heureux. Mais le père, je vous garantis qu'il est encore plus malheureux de son fils. Hein. Donc, si notre combat contre le péché est une réalité qui ne cessera pas tout au long de notre vie, la manière dont nous nous emparons des ressources de notre nouvelle vie, que Dieu a placée en nous, va influencer grandement l'intensité du combat. Et ça, c'est la grande. Ça, c'est la grande promesse. Et c'est la grande vérité. Nous avons accès à la puissance de Christ par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Paul, toujours après avoir secoué ses amis de Galates, leur dira, vous voulez connaître la solution. Marchez selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit. Suivez les injonctions de l'Esprit-Saint. Et... Ça s'arrête pas là. Et vous n'accomplirez plus, les désirs de votre nature propre. Il ne dit pas que si nous marchons selon l'esprit, nous ne connaîtrons plus les convoitises, la tension, les pulsions, la pression de notre ancienne nature. C'est pas ça qu'il dit, parce que c'est pas vrai. Mais que si nous nous appuyons sur la puissance de l'esprit qui a ressuscité le Christ, nous ne céderons plus à ces convoitises. C'est que la pression arrivera, on dira, va te faire voir. C'est non. Je suis plus ce mec-là, en faisant appel au Saint-Esprit. C'est non. Je suis très tard encore, hein, mais il y aura un combat toujours, il sera toujours là, je l'ai dit, mais la pression, quand vous ne serez pas par terre tous les jours de votre vie, il y aura une journée de 24 heures où vous vous dites, oh, consciemment, j'ai pu désobéir à Dieu. Inconsciemment, vous ne savez pas. Il faut demander pardon pour les péchés inconscients. Parce que là-dedans, qu'est-ce qui se passe parfois? Quelle horreur. Mais quand... Seigneur, je pense, tu me dis autre chose, mais franchement, j'ai l'impression que je ne t'ai pas désobéi une seule fois aujourd'hui, quoi, consciemment. Oh, qu'est-ce que c'est reposant? C'est ça que Dieu veut pour nous. Mais aussi longtemps que nous ne serons pas convaincus au plus profond de notre être que seul le Christ procure l'énergie nécessaire pour mener une vie spirituelle digne de Dieu, nous continuerons de contrecarrer son action en nous appuyant involontairement sur notre ancienne nature. Notre ancienne nature, elle s'exprime, vous savez. Quand quelqu'un me fait du mal, consciemment ou non, et que j'ai envie de lui éclater la gueule, on va le dire comme ça, hein. C'est pour ça que je ne le fais pas, hein. J'espère. Mais je le pense, et le sentiment qui motive cette dimension, ce sentiment, il a fait irruption en moi. Il sort de mon ancienne nature, il est bien présent, cette colère est là. Qu'est-ce que j'en fais? La colère monte par rapport à mon arrière-plan, tout ce que je suis éducatif, psychologique, peu importe, nous sommes complexes. Ce sentiment agressif vient, cette colère monte, j'en fais quoi? C'est toujours pas un péché de votre colère soit là, c'est pas un péché la colère, hein, contrairement à ce que certaines personnes disent. Hein. Cette colère est là, j'en fais quoi? Je prends la colère, ça peut être la tristesse, n'importe quoi. Hein. Qu'est-ce que j'en fais? Ben, c'est très simple. Je rentre en dialogue avec le Saint-Esprit, je dis ça, j'en veux pas. C'est monté, ça, c'est parce que voilà, je suis blessé à certains, peu importe, c'est monté, mais moi ça, Seigneur, je n'en veux pas ce truc. Combat. Je m'oppose. Non. Ça va peut-être durer 10 minutes, un quart d'heure. Allez prier. Mettez-vous dans le silence. Moi, c'est ce que j'essaie de faire quand je commence à m'énerver. Enfin, soit. J'essaie. Hein. Et le Saint-Esprit fait son travail. Et il bloque cette colère. Et il apaise cette colère. Et au fur et à mesure, cette colère ne vient plus. Mais il faut du temps. Hein. C'est un combat. Et aucun combat ne se livre, ne se gagne en étant assis par terre à rien faire. Si on accepte cette colère comme étant la réponse adéquate, Dieu ne veut jamais de ça. Si on l'accepte, elle prend place, ça devient ce que moi j'appelle une forteresse, et alors bon courage. C'est comme les pères de l'Église, rappelez-vous. Hein. C'est dans une hutte en branchage, j'ai déjà cité ça, mais cet exemple est tellement fort. Hutte en branchage, mais quand les huttes en branchage, il faut quand même mettre un peu des petits trous dedans, dans les feuilles pour qu'il y ait la lumière du soleil qui passe. Et les pères de l'Église du 4e siècle, pères d'Orient, du désert, du Sinaï, disaient, quand ils enseignaient leurs disciples, de temps en temps, il y a des serpents dans le désert. Et un serpent rentrait par le trou dans la hutte. Et les pères disaient, ils en faisaient un exemple spirituel, quand le serpent rentre, il rend toujours la tête la première, son organe vital en premier. Quand le serpent rentre dans ta tente, coupe la tête du serpent. Parce que si tu laisses rentrer le serpent, tu vas devoir te battre avec le serpent. Dans la vie spirituelle, c'est idem, mes amis. Une émotion, un sentiment qui va à l'encontre de la pensée de Dieu pour votre vie vient. Si vous ne coupez pas sa tête tout de suite, vous allez devoir vous battre avec. Et à ce tarif-là, croyez-moi, on est rarement gagnant. Je vous quitte en vous laissant cette pensée. Je continuerai, rassurez-vous, ce n'est pas fini, je m'arrête en plein milieu. C'est un cliffhanger, je pense, qu'on appelle ça aujourd'hui. Vous savez, les séries télévisées? Le héros est pris en danger, il a un flingue. Va-t-on le tuer? Suite à la saison prochaine. Et vous avez de la chance, hein, c'est pas comme sur Netflix, hein, moi j'attends pas 6 mois avant de revenir. Tous les dimanches, je suis là. Voilà. En attendant, je vous quitte en vous laissant cette pensée. J'espère qu'elle vous encouragera. Vous avez toujours rêvé, hein? Le plus grand des philosophes, malgré toute son intelligence et son intuition, ne peut pas connaître ce qu'un enfant peut connaître, à savoir Dieu. Et cet enfant, Dieu veut que ce soit vous. Nous verrons la semaine prochaine, plus précisément, les principes de vie animés par la vie du Christ à mettre en route pour laisser Dieu être Dieu, tout seul, aux commandes de nos vies. Amen.